Bonjour et bienvenue dans notre émission L'écho à contre-courant où nous poursuivons la série entamée voici quelques mois, Le capitalisme et ses crises, avec aujourd'hui un invité, Frédéric Lordon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, économiste et philosophe. Vous publiez récemment donc ce livre Figure du communisme aux éditions La Fabrique, qui vient donc de sortir. Et ça nous a intéressé de vous inviter parce que, effectivement, vous partez dans ce livre d'un point de départ d'un présupposé qui est celle de la crise organique du capitalisme contemporain et donc de la nécessité de dépasser ce capitalisme. Alors effectivement, pour notre série Le capitalisme et ses crises, cela faisait effectivement un écho fort. Et donc, on va partir de cette hypothèse que vous placé au départ de votre livre, que vous allez développer d'ailleurs tout au long du livre, qui est celle de cette crise organique du capitalisme, qui prend deux formes, hein, évidemment la crise écologique et puis la crise sociale que l'on peut constater un peu partout. Alors, la réponse qui est souvent apportée à cette crise, que plus personne en réalité ne nie réellement, c'est finalement son dépassement par les moyens du capitalisme d'une certaine façon, c'est-à-dire l'innovation, les technologies vertes, la croissance verte, la transition écologique, enfin tous ces mots qui sont aujourd'hui très à la mode. Et vous, votre point de vue, c'est précisément de dire que, en fait, on ne peut pas avoir ce dépassement par les forces internes finalement du capitalisme. Il y a une sorte d'épuisement radical du système.
Oui, alors c'est un point de départ à la fois logique et à dépasser la crise organique. La crise organique, conceptuellement parlant, c'est une catégorie qui vient de Gramsci, qui a un sens assez particulier, qui désigne ce type de situation qui survient dans le capitalisme lorsque la ceinture des institutions politiques et symboliques. Par institutions symboliques, j'entends les institutions qui sont les véhicules du discours dominant, c'est-à-dire tout ce qui contribue à mettre dans la tête des gens des manières de penser qui se trouvent être adéquates à la reproduction de l'ordre hégémonique. Bref, la crise organique, c'est lorsque la ceinture des institutions politiques et symboliques n'est plus capable d'accommoder les contradictions ou les tensions qui sont engendrées par les contradictions fondamentale du capitalisme dans la configuration qui est la sienne au moment considéré. Bon. Alors il y a toute une, si vous voulez, il y a toute une symptomatologie caractéristique hein, de la crise organique, du plus grotesque au plus tragique. Alors le plus grotesque, c'est l'arrivée sur la scène politique de personnalités tout à fait improbables. Moi, mon préféré, c'est Joachim Sonforget. Si vous voulez, un gars comme ça, c'est impossible, quoi. Il y a 15 ans encore, c'est un type comme ça qui se balade à l'Assemblée nationale, c'est pas possible. Je veux pas dire que le renouvellement des, vous voyez, des personnages ou du personnel politique est pas une bonne chose, hein, par moment. Ça l'est. Mais ça donne des olibrius comme ça. Macron aussi, dans son genre, vous voyez, est un type très spécial. Qui aurait pas pu surgir comme ça sur la scène politique.
Ce sont des personnages qui sont des symptômes.
Absolument, c'est des personnages qui sont des symptômes. Alors ça, c'est pour la partie grotesque. Et puis il y a la partie effrayante, hein, qui est bon. Alors je sais, c'est un débat qui nécessite de prendre plein de précautions conceptuelles, etc. Moi, je vais y aller en mettant les pieds dans le plat. Le dramatique ou l'effrayant, hein, c'est la fascisation du régime. Hein. Bon, là aussi qu'on repère à toute une série de signes. Je sais qu'il faut faire très attention à ces catégories, mais le problème, si vous voulez, c'est que le fascisme ne déboule pas nécessairement comme ça, d'un coup, tout armé sur la scène politique. Il peut aussi s'installer par degrés. Et puis alors, il y a un degré critique où là on s'aperçoit qu'il est là, mais en général c'est trop tard. Bon, donc la crise organique, c'est en première instance c'est ça. Mais moi ce que je crois, c'est que on peut pas s'arrêter à la qualification de crise organique pour saisir la totalité de la crise présente. Là, je vais dire quelque chose que d'habitude j'hésite beaucoup à dire, mais je me demande si nous ne vivons pas une situation inédite. Vous savez, les diagnostics de la première fois dans l'histoire, c'est inédit, machin, etc. C'est une des postures caractéristiques, assez souvent ridicules, des intellectuels. Donc là, je prends le risque du ridicule, mais tout de même, nous vivons un moment où ce qui se trouve en jeu, c'est la destruction des conditions de l'habitabilité de la planète par l'espèce humaine. alors disons les choses encore plus carrément, hein, ce qui se trouve mis en jeu pourrait être de l'ordre de la survie de l'espèce humaine. C'est quand même, si vous voulez, il y a de quoi s'arrêter un moment et contempler l'abîme. Hein. Bon. Et ça, le concept de crise organique ne fait pas le compte hein, pour saisir ce dont je parle. Donc, la prise de conscience s'est faite récemment que le désastre empruntait les voies du changement climatique. Et là, on a découvert tout d'un coup qu'il pouvait également emprunter les voies de la propagation pandémique. Et ça, c'est assez nouveau. Je veux dire, on n'est pas encore sorti du Covid, et il y a une masse de travaux scientifiques suffisamment sérieux et suffisamment considérable pour qu'on ait à l'idée que quand le Covid sera fini, il y aura les autres, quoi. Et qu'on va enchaîner les pestes les unes derrière les autres. Et que ces deux choses-là, le changement climatique et la catastrophe pandémique, renvoient à une cause commune, ont un agent causal en commun, qui est le capitalisme. Bon. De sorte que nous nous trouvons rendus dans une situation où, pour reprendre une formulation, je trouve, lapidaire et ultime, définitive, qui a été donnée par Hervé Kempf, le fondateur du site Reporter, avec le capitalisme, désormais, c'est lui ou nous. Alors vous voyez que c'est un énoncé qui fait tout de suite une ligne de partage des eaux. Puisque ça classe d'un côté les gens qui, comme moi, se reconnaissent dans cet énoncé et pensent que c'est ça l'enjeu qui définit la période présente. Et de l'autre côté, toute une autre partie de la gauche qui ne s'y résout pas et qui continue de penser qu'il est possible de s'en tirer sans trop de casse, si vous voulez, sans tout mettre cul par-dessus tête, par les voies du capitalisme lui-même, convenablement aménagé, régulé, etc., etc. Bon, voilà, c'est ça, la grande ligne de partage stratégique actuelle.
Et vous, donc, vous considérez que finalement cette conjonction des deux crises, hein, cette crise organique que vous avez définie et, je dirais, cette crise inédite qu'on pourrait dire quasiment de survie qui se joue au niveau du changement climatique et de ses conséquences, y compris sanitaires, c'est cette conjonction des deux qui font que finalement on ne peut pas imaginer un changement par le capitalisme parce que, en fait, à la conjonction des deux crises, on a justement la logique du capital.
Absolument. Ce que je crois, c'est que la crise climatique ainsi que la crise pandémique, si on peut les appeler comme ça, puisqu'en réalité nous sommes désormais dans un nouveau régime, un régime de désastre, quoi, un régime de désastre double. Je pense que ce double désastre renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental dans la logique du capitalisme, à savoir que l'accumulation est un processus indéfini, un processus sans limite, et même un processus qui recherche les voies de son expansion constante. Et que ce processus-là ne peut pas entrer dans le cadre d'un monde fini. Je veux dire, là, il y a une contradiction dont la tension interne est telle qu'elle ne peut pas être accommodée sinon par la disparition d'un des deux termes. Voilà. Et je crois que c'est à ça que nous faisons face. Donc je pense que la ligne de gauche qui continue de poursuivre l'idée qu'on va s'en tirer depuis le capitalisme et par ses voies mêmes commet, en ce sens, une erreur stratégique profonde, rédhibitoire. Si vous voulez, il faudrait obtenir du capitalisme qu'il consente à réduire la production dans des quantités, enfin dans des proportions qui sont tout à fait considérables, mais le capitalisme fonctionne à la croissance. Je veux dire, la décroissance dans le capitalisme, ça s'appelle la récession et c'est pas beau à voir. Bon. Donc
Pour vous, la décroissance, en fait, signifie, si elle est conséquente, pour reprendre le terme que vous utilisez dans le livre de façon assez constante, c'est-à-dire on part de du point que vous avez décrit et on est conséquent, on est logique, donc on va jusqu'au bout, la décroissance mène forcément à la sortie du capitalisme.
Oui, je pense que pour se tenir, le concept de décroissance doit être mis en égalité avec l'idée de sortie du capitalisme. La décroissance dans le capitalisme, je tiens que c'est une contradiction dans les termes. Au reste, il y a un certain nombre de gens qui adhèrent aux idées de la décroissance et qui l'entendent bien de cette manière, hein, n'est-ce pas, comme sortie du capitalisme. Mais je pense que c'est pas le cas de tous, de sorte que la décroissance continue de fonctionner comme une espèce de solution illusoire à laquelle on va se raccrocher dans l'espoir que on va pouvoir s'en tirer à moindre frais. Non, la situation est si grave que nous ne nous en tirerons pas à moindre frais. Nous ne nous en tirerons que par modification de la cave au grenier, du mode de production, de notre manière de vivre, etc. Et c'est pour cette raison même que nous nous dirigeons vers un point d'affrontement décisif avec le capitalisme, donc avec le capital et ses forces. Et moi, je pense qu'il y a toute une gauche qui ne veut pas voir cet affrontement.
Est-ce que cet affrontement suppose, on y viendra un petit peu plus tard, mais est-ce que cet affrontement suppose un affrontement au sein de la gauche entre ceux qui suivent votre analyse et ceux qui ne la suivent pas, ou en tout cas estiment que le moment de la rupture avec le capitalisme n'est pas encore arrivé?
Mais ça commencera par là, c'est-à-dire il y aura un débat politique extrêmement vif et radical à propos du choix de cette ligne stratégique. Vous savez, je me raconte pas d'histoire, pour l'heure... Tout milite contre la position que j'essaye de tenir. À l'évidence, la situation n'est pas encore mûre pour que des prises de conscience suivies des faits s'opèrent. Bon, alors donc, qu'est-ce que vous voulez? Rendez-vous dans 10 ans ou dans 15 ans, lorsque la température aura pris je ne sais pas combien de degrés, lorsqu'on en sera à la quatrième pandémie, etc., etc. Ça hâtera sans doute, vous voyez, les liens de cause à effet dans l'esprit, dans l'esprit des gens.
Ouais, stratégiquement, de ce point de vue, en partant évidemment de ce constat que votre position aujourd'hui est effectivement relativement très faible, minoritaire ou faible, au sein des forces de gauche, on va dire. Est-ce que votre position doit être de tenir votre ligne, d'une certaine façon, de tenir la ligne en excluant le reste, ou est-ce que ça ne doit pas être d'élargir, je dirais, pour... d'une certaine façon intégrer dans cette position des gens qui sont en doute, qui voient bien qu'il y a un problème au sein du mode de production, mais qui précisément ont encore cette difficulté peut-être à sauter le pas pour des raisons dont on reparlera ensuite, mais qui font que effectivement l'anticapitalisme a une certaine couleur culturelle qui n'est pas forcément celle que ces gens ont envie de défendre. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de raisons.
Rajouter la catégorie communisme.
Voilà.
La
question que je veux savoir, c'est est-ce que finalement on peut constituer des alliances? Est-ce que vous pouvez imaginer de pouvoir constituer des alliances pour élargir ce cercle, tout en tenant l'essentiel, mais est-ce qu'on peut élargir, ou est-ce qu'il faut effectivement tenir ce point et attendre que la réalité ramène à votre position des gens qui aujourd'hui refusent de voir ce que vous considérez être comme inévitable?
Non, mais si vous voulez, moi j'occupe ma place dans la division du travail intellectuel et politique, elle est toute petite, mais du coup j'essaye de la tenir. Maintenant, je comprends le sens de votre question, et d'une certaine manière, je suis pas loin de la partager. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens font leur chemin par les voies qui leur sont propres. Bon, on peut convoquer tout un tas d'explications sociologiques assez simples pour avoir l'idée qu'ils vont pas rentrer dans cette problématique-là directement par la porte du communisme, ça, ou de l'anticapitalisme radical, ça c'est absolument certain. Bon, écoutez, il y a peut-être une bonne dialectique à trouver entre les organisations qui sont... habile à attraper, si vous voulez, ce segment de la population qui commence à se dire que non, tout va pas si bien que ça, mais en même temps, bon, allez, gardons notre calme, réfléchissons posément, on va s'en tirer, ça va marcher. Et puis qui pris dans l'engrenage de l'activisme, finiront par se déplacer. Et si des propositions plus radicales entrent à un moment dans leur champ de vision, commenceront à se dire que, ah, peut-être là, il y a quelque chose qu'il faudrait suivre. Donc je pense que c'est... Bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On peut rien faire d'autre que de se livrer à l'évolution des processus comme ils vont, en essayant d'y injecter des inputs, des propositions, des énoncés, etc., dans l'espoir qu'ils finiront par être captés. Alors maintenant, j'insiste sur une chose, hein, c'est que, si vous voulez, ce processus, qu'on pourrait laisser faire, il va prendre du temps. Et la question, c'est de savoir du temps si nous en avons encore. Moi, c'est pour ça que je fais reproche à cette partie de la gauche que je trouve inconséquente, parce que, d'une certaine manière, moi, je prends au sérieux les gros titres qu'on peut lire à la une de sa presse caractéristique. Vous voyez, l'organe par excellence de la gauche inconséquente, c'est le journal Le Monde, qui s'y entend hein, pour publier des pétitions avec des dizaines de milliers de chercheurs, des appels de centaines de people, etc. Et le tout sous un titre gros comme ça, où il y a écrit « Bientôt, il sera trop tard ». Bientôt, il sera trop tard. Bon, la question, c'est est-ce que... Et moi, je pense que là, ils ont raison, hein. Et toute la question, c'est de savoir si on prend au sérieux cet énoncé ou pas. C'est-à-dire, si on dit, oui, c'est vrai, c'est sérieux, mais finalement, c'est pas si sérieux que ça, ou bien si on le prend réellement au sérieux, et prendre au sérieux, si vous voulez, ça vous oblige, n'est-ce pas ? Derrière le fait de prendre au sérieux, il y a un devoir de conséquence. Bon. En réalité, mon livre ne parle pas d'autre chose. S'il faut le ramener à une seule idée, c'est à celle-ci. Hein. De deux choses l'une. Ou vous prenez l'énoncé au sérieux, mais alors dans ce cas-là, il faut être capable de mettre derrière des idées, des stratégies politiques, des perspectives politiques, de vous former une idée aussi claire que possible du type d'opposition que vous allez rencontrer et du type de situation historique que tout ça va engendrer. Et de tenir cette ligne. Et ça, ça n'est pas évident. Mais, en effet, le temps presse. Donc, pour l'instant, nous sommes ceux qui partagent cette ligne. Nous sommes minoritaires et ridicules. Mais, si jamais l'histoire nous donne raison et qu'il est trop tard, aïe, aïe, aïe.
Il y a cette déconnexion entre le temps naturel, entre guillemets, le temps du changement climatique et le temps politique et culturel, d'une certaine façon, où il y a ce processus dialectique, mais qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément à la vitesse.
Voilà, les temporalités sont par accord et il y a une course de vitesse dont les enjeux sont tout à fait dramatiques.
D'où l'appel à la conséquence. Mais à cette conséquence, ce qu'on pourrait appeler les sociodémocrates au sens très large, c'est-à-dire finalement les réformistes, là aussi, qui peuvent aller des Verts les plus modérés jusqu'à aujourd'hui au Parti communiste, on va dire,
ou oui,
même,
oui.
Même
oui.
À la France insoumise d'une certaine façon, ces gens-là ont l'espoir finalement que le progrès technique qui va être alimenté par le capitalisme, les investissements privés ou publics, mais les investissements, les partenariats publics-privés, les choses comme ça, les plans de relance, tout cela va faire que effectivement, on va pouvoir faire face à ce changement climatique, le ralentir, tout en maintenant le niveau, enfin, on va dire le niveau de vie, mais vous avez un terme dans votre livre où justement vous dites le niveau de vie au sens capitaliste, c'est-à-dire effectivement le mode de vie, on va dire actuel, tout en maintenant ce mode de vie. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que l'innovation peut finalement être une solution à la survie du capitalisme ?
Ouais, c'est un constat que je trouve accablant. Si vous voulez, la croyance en l'innovation est l'un des principaux éléments de la fantasmagorie néolibérale. Il y a qu'à voir à quel point Macron incarne la chose. Enfin, il est ce discours ambulant à l'état pur. Et moi, ce qui me concerne, c'est de voir à quel point cet imaginaire fantasmagorique est partagé par de larges fractions de la gauche, et notamment celle que vous mentionnez. Imaginaire dans lequel, évidemment, elle trouve un moyen supplémentaire de retarder les ajustements, mais non, de retarder le bouleversement qui s'agirait en réalité d'envisager, auquel on se refuse, grâce à quoi, enfin, en vertu de quoi, dès qu'une solution passe, on s'en empare, dans l'espoir de faire durer l'illusion un petit peu plus longtemps. Et on sait bien que c'est la promesse constante du capitalisme depuis un siècle et demi. Si vous voulez, le capitalisme nous a mis dans la tête qu'il était capable de repousser constamment les problèmes qu'il engendre devant lui, parce qu'il est réglé à coup d'innovations, qui sans doute recréent d'autres problèmes et auxquels on fera face par d'autres innovations, etc., etc. Donc ce discours est constant. Malheureusement, j'ai peur qu'il tombe sur un os avec le problème, en l'occurrence, qu'il a sur les bras. Parce que l'innovation n'ôtera rien à la logique fondamentale du capitalisme, qui est celle de l'expansion indéfinie. Si bien que, pour le coup, le problème ne va pas, à coup d'innovation, ne cessera pas de se déplacer en prenant des formes nouvelles, successives, mais qui le laisseront en son fond totalement intact. On le voit bien, par exemple, le simple exemple de la sortie du moteur à combustion pour les automobiles. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? S'il faut équiper quelques milliards de véhicules sur la planète avec des batteries, est-ce que vous ne pensez pas que ça va pas recréer un autre problème environnemental, ou plus exactement déplacer le problème environnemental, simplement en lui donnant une forme dont on n'avait pas l'habitude, qu'on entreprendra de régler de nouveau, etc., etc. Mais pendant ce temps, la dégradation environnementale, ce que je devrais plutôt appeler l'écocide, continue, n'est-ce pas ? En réalité, de deux choses l'une. Ou le capitalisme se reconnaîtra dans les projets de correction de trajectoire qui lui seront soumis par les différentes propositions politiques. Et ça signifiera que, d'une certaine manière, rien de fondamental n'est modifié. Mais précisément, ce qu'il s'agit de modifier, c'est du fondamental. Si rien de fondamental n'est modifié, le cours vers le désastre est maintenu. Ou bien le capitalisme constatera que les projets de rectification de trajectoire vont se faire par destruction de sa logique propre et congédiement du mode de production qu'il nous imposait, et alors là, les choses se passeront très très mal. Mais les espérances remises en les pouvoirs de l'innovation technique sont vraiment de l'ordre de la croyance, de la foi, du déni et du report indéfini de ce qu'il y aura à faire un jour ou l'autre.
Donc pour vous, finalement, il n'y a que deux options. La fuite en avant néolibérale capitaliste ou finalement la révolution.
Oui. Alors évidemment, dit comme ça, on sait quelle est la branche de l'alternative qui sera la plus probablement empruntée dans le court terme. Alors bon, évidemment, il y a toute une série de petites variations qui peuvent être faites autour de la première. Mais ce sont des variations secondes et qui ne touchent pas à l'essentiel du problème.
Et finalement, cette dichotomie des alternatives nous amène à un point important de votre livre, qui est ce que vous appelez, ce qu'on peut résumer par la fermeture, finalement, de l'espace social-démocrate, qui a été, finalement, quelque chose d'essentiel pour la survie du capitalisme, mais aussi, finalement, pour le développement des masses laborieuses. Et aujourd'hui, vous, ce que vous dites, c'est que cet espace-là, que ce soit sur le plan social, environnemental ou sur d'autres plans, est complètement fermé.
Oui. Je pense que... La plus grande partie des forces politiques de gauche ne se sont pas encore rendues à cette analyse que cette séquence historique qu'on a appelée la social-démocratie est close, c'est fermé. Et alors moi, je crois que ça ne reviendra plus. En réalité, cette séquence historique n'a jamais été convenablement pensée à partir des conditions qui l'ont rendue possible. Elle s'installe... Évidemment, dans les discours, dans la pensée, dans la réflexion politique, l'idéologie, etc., elle remonte à très loin. Mais comme, si vous voulez, comme configuration concrète du capitalisme, elle est relativement récente. Et elle doit beaucoup à la convulsion de la Grande Dépression des années 30, la Seconde Guerre mondiale, etc., qui a produit un effet de table rase institutionnelle, c'est beaucoup dire, mais enfin, vous voyez ce que j'ai en tête, qui a permis une resynchronisation des formes institutionnelles, et surtout parce que le personnel du capital était si profondément délégitimé par son comportement à la suite de la période historique que je viens d'indiquer, qu'il n'a pas eu le pouvoir de s'opposer au compromis qui lui a été imposé, dans lequel, ce compromis qu'on a appelé le Fordisme, dans lequel, grosso modo, il conservait la souveraineté sur la production, mais tout en consentant à une série de transformations institutionnelles qui ont eu pour effet, objectivement, de rebasculer le rapport de force entre capital et travail, sensiblement en faveur du travail. Cette séquence s'est close à partir du milieu des années 70. La forme néolibérale du capitalisme s'est installée et cette forme néolibérale se caractérise par l'inversion terme à terme des caractéristiques institutionnelles qui définissaient le fordisme et qui donc soutenaient les conditions de possibilité de la solution social-démocrate. inversion terme à terme, destruction terme à terme. C'est-à-dire, depuis 30 ans, le capitalisme s'est installé, soutenu par la configuration des structures économiques, qui lui donne des marges de manœuvre stratégiques comme il n'en avait jamais eu. Il s'est installé dans une disposition où, en réalité, il n'a plus aucun besoin de passer des compromis. Si vous voulez, on passe des compromis, où on transige, on transacte, quand on n'a pas les moyens d'imposer unilatéralement sa volonté. Mais si on les a, pourquoi passer des compromis? Pourquoi passer des transactions? Vous imposez unilatéralement et c'est terminé. Et le capital est dans cette position-là. Il n'arrête pas de conquérir. Et ces conquêtes, elles sont irréversibles. Je veux dire, le salariat voit, lui, tous ses acquis disparaître les uns après les autres. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui rend possible ce rebasculement du rapport de force entre capital et travail a tout à voir avec le nouvel état des structures économiques. Bon. Donc je dis que la parenthèse social-démocrate est close, que suffisamment d'événements dans les dernières décennies l'attestent, et que ceci met échec et mat toute une série de formations politiques et syndicales dont l'existence même était liée à la possibilité social-démocrate, puisqu'elle se donnait pour but d'obtenir quelque chose du capital. Mais dans les nouvelles conditions où on n'obtient plus rien du capital, les institutions qui s'étaient donné ça pour tâche, évidemment font à répétition la démonstration de leur inutilité. Et sont abandonnés qui par les membres du parti, les membres des syndicats, etc., etc. Raison pour laquelle toutes ces organisations sont dans un déclin historique. Définitif.
Définitif. Donc ça veut dire que pour vous, d'une certaine façon, les 30, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, ou le fordisme, c'était l'exception.
Absolument.
C'était une situation exceptionnelle dans l'histoire du capitalisme.
Oui. Et je crois que ça,
l'héritage. Qui ne reviendra pas. On ne peut pas repartir de cet âge d'or, en quelque sorte, en espérant le recréer dans ces conditions.
Alors, il y a deux choses. D'abord, il n'a jamais été question de recréer le fordisme revisité comme un âge d'or.
Il y a certains qui
oui, non, mais ça.
Développe cette nostalgie, quand même.
Oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. Il y en a essentiellement dans le personnel politique, chez les économistes, et en particulier chez les économistes de la régulation, puisque c'est à eux qu'on doit la formation de la catégorie de fordisme, le régime d'accumulation fordien. Moi, j'en connais pas. En tout cas, moi, j'en fais pas partie. Hein. Donc, la recréation d'un âge d'or est un non-sens. D'ailleurs, pour cette simple et bonne raison que l'histoire ne repasse pas les plats. Quoi. Elle avance. Hein, voilà. Bon, les solutions de restauration, les solutions rétrogrades n'ont jamais été une affaire. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la recréation d'un équivalent fonctionnel, je veux dire, génériquement parlant, d'une configuration du capitalisme qui serait caractérisée par des structures redonnant du pouvoir de négociation au travail contre le capital, je dis que cette chose demandera de nouveau une convulsion historique. Alors là, la démonstration peut être faite par une sorte d'argument a fortiori qui m'est donné par un épisode tout à fait récent du capitalisme français qui a consisté en le renvoi du malheureux Emmanuel Faber à la tête de Danone. Si vous voulez, Emmanuel Faber, il avait tout pour être le héros de cette gauche inconséquente, hein, voilà, un patron mais humaniste qui va corriger les excès du capitalisme. Bon, d'ailleurs, il est catholique, bon, ma foi, c'est très bien, tout ça. Et puis, regardez, comme il est soucieux de responsabilité sociale et environnementale, la bonne preuve, il a transformé Danone en entreprise à mission, ceci, cela, etc. Bon. Sauf que derrière Emmanuel Faber, il y avait, poum, le capital actionnarial. Et quand son rendement baisse, le capital actionnarial, il renvoie. Donc, ce pauvre Faber s'est pris le mur actionnarial en pleine poire, il y a laissé toutes ses dents, et voilà. Sauf que, c'est là que c'est véritablement tragique, parce que, en réalité, ce qu'Emmanuel Faber se proposait de faire, évidemment pour la part qui lui revenait en tant que patron de Danone, c'était des inflexions qui étaient de l'ordre de grandeur de la queue de cerise. N'est-ce pas ? Or, les inflexions, si on peut encore les appeler comme ça, qui sont requises pour nous faire dévier du cours désastreux de la crise climatique et pandémique, sont hors de proportion avec ce que lui avait la modeste ambition de faire. Et sa modeste ambition, eh bien, elle n'a pas été validée par le capitalisme actionnarial, par le capital actionnarial. Donc, vous pensez bien que, a fortiori, le reste qui est long comme ça, ça n'a pas la moindre chance, sauf à se fader le capital actionnarial, c'est-à-dire à refaire complètement les structures qui nous placent sous son emprise, à savoir les structures de la libéralisation financière internationale.
Et donc, à ce moment-là, si on doit effectivement redonner du pouvoir au travail, eh bien, on change de mode de production. C'est ce que vous défendez d'une certaine façon dans ce livre, qui est titré « Figure du communisme ». On se figure d'une certaine façon ce que sera le communisme. Alors, on ne va pas développer, en fait, vos propositions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a plein de sujets encore à évoquer. Grosso modo, vous reprenez les propositions de Bernard Friot qu'on avait reçues au mois de septembre dernier, donc on mettra la vidéo en lien, celui de salaire à vie, que vous appelez, vous, garantie économique générale. Exactement. Et donc ça permet finalement de sortir, de modifier le mode de production. Est-ce que néanmoins, communisme, c'est le bon mot ?
Alors, c'est une sacrée question et je vous prie de croire que je me la suis posée. Pour faire juste la transition avec ce qui précède, pour moi, le scénario le plus probable d'advenu du communisme, ça serait une expérience gouvernementale social-démocrate qui dégénère. Plus exactement, parce que finalement le mot dégénérer n'est pas le mieux choisi ici, ça serait une expérience gouvernementale social-démocrate qui, comme le patron de Danone à son échelle, se heurterait au mur d'impossibilité dressé devant lui par le capital et qui atteindrait ce point de bifurcation où le choix est laissé entre s'affaler ou approfondir. L'approfondissement ne pouvant consister qu'en une, je le dis au sens figuré du mot, mais ici il faut sous-peser la charge de tragique de l'histoire. Hein. C'est pas des trucs qu'on dit à la légère ou qu'on pense à la légère. Ce point de bifurcation où on ne s'affale pas et on approfondit, c'est le point où on entre en guerre avec les forces du capital. Mais vous savez, à la manière dont ça s'est passé au Chili en 1973, et c'est pas si loin, hein, c'est un cas type, vous voyez, pour moi. Parce que l'expérience chilienne, c'était le pari de la possibilité du socialisme par les voies démocratiques. C'était ça la ligne d'Allende. Ce pari a été perdu. Il a été perdu parce que le capital a fait la guerre à cette expérience. Et je pense que c'est ce qui se passerait. Et le communisme, à mon avis, naîtrait d'une expérience de ce type qui décide de ne pas s'affaler et cette fois-ci d'approfondir sa propre logique et de passer dans une dynamique d'un tout autre type qui est une dynamique de type révolutionnaire. Alors oui, tout ça pour déboucher sur un mode de production entièrement refait qui prendrait le nom de communisme. Est-ce que c'est le nom le plus approprié à lui donner ? Oui, je pense que le signifiant communisme est de tous les signifiants politiques celui qui a été affligé de la pire des injustices symboliques. Parce qu'en réalité, il suffit de dire le mot communisme pour voir aussitôt débouler toute une série d'images plus désastreuses les unes que les autres. Hein. Mmh. C'est les appartements collectifs, le goulag, le logos plan, enfin, l'Union soviétique, quoi. Mais, pardon, mais ce qui s'est passé en Union soviétique et dans le bloc que l'Union soviétique dominait, en Chine, etc., ne mérite à aucun titre d'être appelé communisme. D'ailleurs, ça s'appelait le socialisme. Catégorie des plus floues, hein, en réalité. Catégorie transitoire, etc. Maintenant, on est bien obligé de constater que, si c'est au terme d'une injustice, le signifiant communiste se trouve grevé, et on devrait presque dire taré, par toutes ces images absolument catastrophiques. Alors, dans ces conditions, le choix est le suivant. Soit on dit, bon, non, c'est bon, ce qu'il y a à faire est déjà suffisamment considérable, on ne va pas se mettre ça sur le dos en plus. Soit, au contraire, on tient que le geste crâne, c'est celui de relever le drapeau qui a été injustement traîné dans la boue. Bon, c'est l'option qu'a choisi, par exemple, quelqu'un comme Alain Badiou depuis des décennies, Et pour tous les désaccords philosophiques et politiques que j'ai avec lui, moi, je trouve que c'est incroyablement estimable. Je trouve ça admirable. Maintenir envers et contre tout, je trouve que c'est... Bon, pardon, ça a de la gueule. Et ça a peut-être plus que de la gueule, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, chercher... vous voyez, dire anticapitalisme, c'est un signifiant négatif. Donc, chercher le signifiant positif qui lui correspond le mieux.
Est-ce que finalement, socialisme, qui a été aussi très galvaudé, qui a été aussi tari, qui a été aussi sali, oui, à la fois par la par une forme de social-démocratie et par, vous l'avez dit, les régimes soviétiques et staliniens, est-ce qu'il n'y a pas non plus de la gueule à reprendre ce terme-là et à lui donner un signifiant qui finalement, de mon point de vue, me semble plus adapté à ce que vous proposez, c'est-à-dire à quelque chose où on est dans un système économique de transition aussi. Vous le dites, même s'il y a la rupture, il y a aussi une transition. Donc, est-ce que finalement, le socialisme correspondrait pas plus à ce que vous défendez?
Écoutez, moi, je pense que pour dire anticapitalisme, c'est communisme qui convient. Alors, oui, il est exact que j'envisage un processus, enfin une dynamique de transition dans le processus d'ensemble qui conduit à la formation communiste. Mais en réalité, vous savez,
la rupture fait passer du capitalisme au communisme finalement.
Ah oui, je crois, parce que elle fait passer du capitalisme au communisme, et on peut le dire directement à partir du moment où ce dans quoi on entre accomplit immédiatement l'abolition de la propriété privée des moyens de production, son remplacement par ce que Bernard Friot, à qui en effet j'emprunte énormément dans tout ce livre, il faut le dire, hein, le remplacement de la propriété lucrative par ce que Bernard Friot appelle la propriété d'usage, et par toute une série de choses qui vont quelques crans plus loin que le socialisme, en particulier l'abolition de toutes les constructions institutionnelles de la finance et de la logique même de la finance, remplacée par une logique entièrement autre de l'avance et du pilotage de la division du travail. Alors oui, bien sûr, il y a des étapes de transition à négocier, mais la logique fondamentale est posée. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? J'entends qu'il y a matière à discuter, à avoir une discussion d'opportunité sur le choix du mot. Moi-même, j'ai longtemps flotté là-dessus. Bah, là, vous voyez, hein, j'ai fini par prendre mon parti. Et je le prends d'autant plus que ça me permet de m'inscrire dans cet effort qui a été entamé, ou en tout cas qu'on a vu réapparaître au tournant des années 2000 et 2010, notamment avec les livres d'Alain Badiou sur l'idée communiste, avec le colloque qui avait eu lieu au Birkbeck College à Londres sur ce sujet, et puis Bernard Friot lui-même, c'est l'appellation qu'il donne à sa proposition. Donc je ne vois pas de raison d'aller chercher midi à 14h.
Alors, juste un petit mot sur justement le communisme. Encore une fois, on ne peut pas rentrer malheureusement dans le détail, le temps nous manque, mais... Néanmoins, vous dites, on rentre dans une abolition de la propriété privée des moyens de production, mais vous conservez néanmoins une proposition privée au sein de ce communisme. Alors, quelle est sa fonction? Quelle est sa place? Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, parce qu'en fait, dans toutes les réflexions qui se font depuis des années sur le communisme, sur le socialisme, on voit bien qu'il y a... quand même cette idée qu'il faut qu'il y ait quand même à un moment du privé, du marché, même à un niveau inférieur, soumis, etc. Mais néanmoins, on conserve ça. C'est un élément qui est assez intéressant. Comment vous l'entendez, vous?
Votre question me donne l'occasion de dire, mais très brièvement, qu'il y a quand même effectivement toute une série de choses qui font des différences absolument considérables entre cette proposition communiste telle qu'elle est formulée par Bernard Friot et telle que je la reprends à mon compte, et comment dirais-je, toutes les images qu'on a accolées au mot communisme à partir des expériences dites du socialisme réel, en particulier le fait qu'il ne s'agit en rien de verser dans une formation sociale qui se trouverait entièrement totalisée au sommet de l'État, qui serait une espèce de pôle unique d'analyse, de décision, de commandement, etc. Donc l'un des points sur lequel j'insiste particulièrement dans le livre, c'est la multiplicité des échelles territoriales. C'est la dimension profondément multiscalaire et donc fédérale ou fédéraliste de cette formation sociale. C'est vraiment très important. Autant je ne crois pas qu'on puisse reconstituer une formation sociale d'ensemble juste à partir d'une dissémination d'expériences d'autonomie locale, autant je pense que ces expériences ou la possibilité des autonomies locales est absolument fondamentale. Mais elle doit être complétée par toute une série de constructions et étagée sur une multiplicité de niveaux territoriaux et politiques. Bon. Alors oui, en effet, ce que je crois, c'est que dans cette formation communiste-là, il faut garder une place au marché et à la monnaie. Évidemment, là, il y a matière, je le sais, hein, de la part de certains secteurs particulièrement orthodoxes du marxisme, c'est un motif de condamnation rédhibitoire. Bon, le débat s'engagera, hein, après tout, ça sera très bien. Moi, je crois qu'il faut envisager ce maintien, pour une part évidemment collectivement délibéré et très strictement contrôlé, et qu'il faut l'envisager pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'il faut maintenir une part de consommation privée. C'est tout à fait simple. Je ne crois pas qu'on puisse constituer une proposition politiquement majoritaire et désirable avec une espèce, si vous voulez, de planification de la consommation des personnes privées. Je pense que c'est impossible. Donc, qu'on augmente considérablement la part de la consommation publique, ça me semble une évidence. Et alors, Dieu sait qu'il y a de la marge en cette matière. Mais il y a une part de la consommation qui doit rester privée, parce que les gens décideront eux-mêmes de choses qui leur fera plaisir à acquérir dans une offre qui, faut-il le dire, sera considérablement restreinte. Puisque la contrainte qui est posée en premier rang, n'est-ce pas, c'est la contrainte de la soutenabilité environnementale, hein, et ce qui va imposer des réductions de niveau de vie matériel qui seront tout à fait considérables. L'autre chose, c'est que je crois que, parce que, si vous voulez, il y a une anthropologie implicite sur laquelle repose la proposition de Bernard Friot, qui bat en brèche cet énoncé libéral, mais alors usé jusqu'à la corde, payer les à ne rien faire, alias le salaire à vie, ou la garantie économique générale, et ils ne feront rien. Je pense que c'est entièrement faux. Friot pense ça également, je crois qu'il a parfaitement raison. Les gens feront, ils n'arrêteront pas de faire. On a envie de faire des choses. Alors oui, bien sûr, hein, vous sortez du salariat capitaliste, vous commencez par prendre 2 mois de vacances. Mais après, vous avez envie de faire des choses. Et ces choses, après tout, ça s'appelle des initiatives privées. Et alors, vous pouvez les proposer à titre purement gratuit ou pas. Ça dépendra des régions de la division du travail dans laquelle vous trouvez à vous insérer. Alors, sans doute, vous aurez besoin d'aide au lancement, au financement, mais plutôt au subventionnement de vos projets, qui seront soumis à un système de caisses que Bernard Friot appelle les caisses économiques, qui seront en charge des avances, donc qui sélectionneront les projets, qui par là auront une action de pilotage de la division du travail, mais ce ne sont pas des instances publiques qui, du haut, décideront exclusivement de ce qui aura à être produit. Des collectifs privés conserveront le pouvoir d'initiative. Et ça me semble finalement, tout à fait indispensable.
Vous reprenez à votre compte l'idée de liberté, et c'est pour vous est-ce que le communisme c'est d'une certaine façon une liberté raisonnée, une liberté raisonnable, on va dire, c'est une liberté qui se fait dans les contraintes que nous donne la nature, la vie en société, et qui est soutenable justement, et qui ne se limite pas à simplement j'ai envie de quelque chose et je paye pour y avoir accès. Mais est-ce que justement on peut réutiliser, reprendre ce terme de liberté au sein de ce que vous appelez le communisme?
Mais écoutez, cette idée, elle se trouve de fait inscrite dans le concept d'émancipation, alors qui pour le coup ne départ pas une proposition communiste. Hein. Moi, je crois que ce qui est en question, en effet, c'est l'affranchissement des désirs d'activité des personnes et des groupes, affranchissement avec les contraintes qui viennent d'avoir à se couler actuellement dans les formes de l'activité capitaliste qu'on appelle le salariat. Alors là, pour le coup, c'est une contrainte et une fameuse. Donc c'est de ça qu'il s'agit d'affranchir les désirs d'activité. Bon, je pourrais repartir dans des conditions d'anthropologie du désir, etc. C'est pas tout à fait le lieu, mais effectivement, il y a quelque chose de ça qui est en jeu.
Alors, on va terminer notre entretien avec un sujet qui ici à Mediapart nous intéresse particulièrement et auquel vous consacrez en fait le dernier chapitre de votre livre. C'est finalement un sujet stratégique qui est cette articulation entre la lutte anticapitaliste donc que vous défendez et puis les autres luttes d'émancipation, notamment la lutte antiraciste sur laquelle on va se concentrer un tout petit peu, mais qui peut aussi rejoindre les luttes féministes, les luttes LGBT ou les autres luttes, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, finalement. Vous, votre position, c'est de dire, finalement, il y a une autonomie de toutes ces luttes, mais il n'y a pas de hiérarchie entre ces luttes. Néanmoins, il y a une lutte qui touche au système, au cœur du réacteur, on va dire, hein, qui est la lutte anticapitaliste. Donc il faut trouver une sorte d'articulation, c'est ça, entre les autres luttes et cette lutte centrale. Est-ce que je résume bien ?
Oui. Je voudrais vous dire d'un mot comment je suis venu à ce genre de réflexion qui n'entrait pas jusqu'à présent dans le champ de mes travaux de recherche. Ni même, sauf par la question des violences policières, hein, de mes interventions politiques. En réalité, j'ai été entraîné par un enchaînement logique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous problématisez la situation présente, dans les termes gramsciens de la crise organique, vous ne pouvez pas ne pas être conduit à vous poser la question de la manière dont pourrait se constituer un bloc contre-hégémonique. Voilà. Et là-dessus, moi, il y a eu un épisode haut en couleur qui a produit un effet de précipité. C'était le 2 juin dernier, au soir. Il y avait eu dans l'après-midi ce coup d'éclat de la manif au TGI, à l'appel du comité justice pour Adama. Et le soir même, sur LCI, il y avait un éditocrate notoire, c'est Maurice Safran, mais qui poussait des glapissements de terreur. Il était absolument remué et il s'écriait, c'est la convergence de l'extrême gauche et des quartiers. Et c'est pas faux, Maurice. C'était exactement ça. Et moi, je pense que s'il a eu si peur, il a pas tort, hein, parce que je pense que c'est une formule prometteuse. C'est une formule prometteuse. Pourquoi ? Parce que, comment dire ? Vous voyez, la constitution d'un bloc contre-hégémonique, c'est une affaire de nombre. Il faut chercher le nombre. Alors, vous pourriez me dire, mais le nombre, c'est les gros bataillons du salariat. Sauf que le salariat est dans un état d'atomisation qui fait pour une bonne part son impuissance. Alors, c'est pas un état absolument insurmontable, hein, à preuve les gilets jaunes. Mais, à côté de ça, dans les quartiers, il y a une énergie de la révolte qui est tout à fait considérable. Et c'est normal. En réalité, il se passe dans les quartiers l'exact inverse de ce qui se passe dans le salariat. Là où les salariés sont atomisés, dans les quartiers, c'est l'entassement du ghetto. On les a concentrés. Ils vivent les mêmes choses, ils expérimentent les mêmes choses. Donc ça fait fermenter. C'est vraiment un cas type de pour la formation de ce que Spinoza appelle un affect commun. Vous voyez. Bon. Donc là, il y a une formule qui est tout à fait excellente. Alors maintenant, il faut se demander comment on fait tenir ensemble tous ces groupes pour en vue de la constitution d'un bloc contre-hégémonique. Et c'est une question c'est un problème qui a toujours été placé sous l'hypothèque d'une sorte de question préalable qui est la question de savoir quelle est la question centrale. Alors, est-ce que la question centrale, c'est l'élite sociale? Ou est-ce que c'est l'élite raciale? Est-ce que la question centrale, c'est l'anticapitalisme? Ou est-ce que c'est l'antiracisme, etc.? Et on peut, je veux dire, on a mouliné dans ce tourniquet, je veux dire, et on continue un peu d'ailleurs. Et moi, je crois qu'il faut en sortir, et que pour en sortir, il faut faire un bon pas de côté. Et le pas de côté, il consiste en une position. En une postulation fondamentale qui dit ceci, qui dit l'égalité des luttes. Les luttes sont égales. Donc il faut pas, si vous voulez, il faut pas la première conséquence qui suit de l'égalité des luttes, c'est d'accorder aux gens de voir la question centrale chacun à leur porte. Vous comprenez, quand vous êtes un jeune des quartiers et que vous avez affaire quotidiennement à la police, qui maltraite, qui abuse, qui humilie, qui violente, qui assassine. Comment voulez-vous que votre expérience du monde social ne soit pas saturée par ces choses-là et que la question centrale pour vous, à plus forte raison de ce qu'elle est accrochée à des enjeux de vie ou de mort, ça ne soit pas la violence de la police raciste. Bon, et puis dans d'autres univers, on a d'autres questions centrales, etc. Donc moi, je pense qu'il faut partir de ça. Il faut partir de cette affirmation de l'égalité des luttes. Elles sont égales en qualité, en légitimité et en autonomie. Maintenant, ceci étant posé, il faut ajouter d'autres choses également. Égales en qualité, les luttes n'en diffèrent pas moins en quantité. Et si on a en tête la formation, la constitution du nombre, ce n'est pas une donnée inessentielle, n'est-ce pas ? Deuxième chose, la société est traversée par une multiplicité de rapports de domination. Mais comment ce paysage des dominations s'organise-t-il ? Ma thèse, elle est contestable, elle est même déjà contestée, dans le livre même. Hein.
Oui,
ma thèse, c'est que parmi tous ces rapports de domination, il y en a un qui occupe une position structurale particulière, qui jouit d'un statut particulier, que les autres ne peuvent pas lui rivaliser. Et s'il s'agit du rapport de domination capitaliste, en tant qu'il donne à la société sa structuration principale. Sa structuration principale. Raison pourquoi on peut dire, d'un point de vue structural, que nous sommes dans une société capitaliste. Ce qui ne l'empêche pas d'être par ailleurs une société raciste, hein, n'est-ce pas ? Mais au titre de sa structuration principale, nous sommes dans une société capitaliste. Voilà, alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que le paysage d'ensemble des dominations est structuré d'une certaine manière, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Ça n'empêche pas que on voit comment ça se réalise en situation. Donc il y a des régions de l'espace social où les rapports de domination se rencontrent, s'empilent et, comme on dit, s'intersectent. Il y a un cas type, il y a un exemple type qui est donné en général, en illustration de ce type de situation, c'est la lutte des femmes de ménage des hôtels Ibis, triplement opprimées. Ça, c'est une belle superposition, hein. Comme salariées, comme femmes, comme noires. Et en même temps, à cet égard, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, ou des hôtels Ibis, elle est appréhendée en première instance comme une lutte sociale, comme une lutte salariale, n'est-ce pas ? Avec d'autres aspects qui sont présents. Et moi, je trouve ce cas qui est tout à fait intéressant parce que, en quelque sorte, il offre une réduction comme microcosme de la manière dont j'essaye de caractériser le paysage des dominations dans son ensemble. Voilà. Bon, puis il y a d'autres régions où de l'espace social où c'est pas ça. En première instance, on a affaire à des luttes antiracistes quasiment pures. Bon, alors à quoi ça nous mène tout ça ? Bon, moi je pense que ça nous mène à l'idée que il faut accorder aux luttes leur autonomie. C'est la conséquence qui suit de la postulation de l'égalité de toutes les luttes. Et puis il faut chercher des règles, c'est des conclusions modestes hein, tout ça, il faut chercher des règles de bonne coexistence des luttes, sous un principe de ne pas se nuire les unes les autres, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est la seule chose qui nous permette d'espérer la rejonction au moment décisif. Et puis dans l'intermède, il faut, mais ça c'est l'affaire des militants, hein, eux ils savent faire ça, il faut travailler à développer toutes les connexions qu'on peut. Bon, je donne juste un exemple pour terminer là-dessus, parce que moi, il m'a toujours paru absolument remarquable. C'est ce mouvement qui a été effectué par le comité Adama très tôt dans l'épisode des Gilets jaunes, qui a produit une déclaration de soutien au mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris tout le monde, et franchement, il y avait de quoi. Quand on y repense, on voit tous les obstacles qui s'opposaient à ce que ce mouvement s'accomplisse. Or, il s'est accompli. Et il n'en est que plus remarquable. Bon, bah voilà, c'est avec ce genre de choses qu'on prépare des moments décisifs.
Une petite remarque là-dessus, quand même. Cette autonomie des luttes, sans que finalement on puisse se nuire les uns aux autres, est-ce que concrètement, parfois, c'est pas compliqué ? C'est-à-dire, quand on est dans un mouvement antiraciste, on va lutter pour l'égalité dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui entre les racisés et les non racisés. D'une certaine façon, on peut lutter pourquoi pas pour des quotas au conseil d'administration des grandes entreprises, ce qu'ont fait les féministes, vous voyez, ce genre de choses.
Donc,
est-ce que dans ce cas-là, on contribue à renforcer le capitalisme? Est-ce qu'on nuit au combat anticapitaliste?
Ouais, c'est une question rhétorique. La réponse est dans la question. Et la réponse est évidemment oui. Mais ça, on le sait bien. Ça a été, si vous voulez, c'est aussi à ça
donc
qu'on
voit.
Il faut
s'en abstenir.
Ah oui, je le crois tout à fait, oui. Alors ça, les luttes sociales ne vous disent pas merci, hein, quand il y a des choses comme ça. Mais c'est à ce genre de choses qu'on voit le type de position structurale qu'occupe le rapport de domination capitaliste, c'est qu'il est parfaitement capable de s'accommoder de ça sans que son intégrité à lui ne soit touchée, voire même en tirant opportunité pour approfondir sa propre logique. Alors, on a vu ça dans toute une série de domaines. Bon, alors là, il y a eu l'épisode Black Lives Matter qui nous a réservé des images capitalistes édifiantes, hein, avec le patron de la banque JP Morgan qui pose son genou à terre. Vous voyez, donc lui, il est très engagé dans la lutte antiraciste. Alors ce genre de lutte antiraciste là, non, merci, effectivement. Ça, c'est pas quelque chose qui profite aux luttes sociales. Et on a vu exactement les mêmes chose avec les quotas de femmes dans les conseils d'administration, donc il y a un fémo capitalisme, hein, n'est-ce pas, auquel le manifeste du féminisme pour les 99%, là, qui a été coécrit par Nancy Fraser, Titi Bhattacharya et Cynthia Arruza, alors là, fait la peau définitivement, vous voyez. Alors voilà le genre de bonne connexion, si vous voulez, opposée aux mauvaises. Et voilà, c'est typiquement, moi, c'est en observant ce genre d'expérience que j'induis le principe de que les luttes ne se nuisent pas mutuellement.
Est-ce que ça ne revient pas à dire qu'il faut simplement que l'anticapitalisme soit antiraciste, que l'antiracisme doit être anticapitaliste, pour ne parler que de ces deux mouvements?
Mais si vous voulez, ça veut dire que les luttes anticapitalistes aient en tête qu'il y a le front antiraciste aussi, et que les luttes antiracistes aient en tête qu'il y a le front anticapitaliste aussi. Et ça peut suffire. Ça peut suffire pour soutenir des luttes proprement antiracistes, mais qui ne nuiront pas aux luttes d'à côté. Mais vous savez, à cet égard, enfin, moi, je pense que tout ça est en train de changer à très grande vitesse. Et j'ai cité le mouvement fait par le comité Justice pour Adama avec l'épisode des Gilets jaunes. Mais je pense à d'autres personnes comme Fatima Wassak. Moi, dès qu'elle écrit quelque chose ou qu'elle parle en entretien, etc., je la vois tout tenir ensemble en permanence. Pour moi, c'est vraiment des trucs, c'est des trucs admirables, ça. Ou dans un autre genre, une personne comme Anas Kazib, vous voyez, qui lui a son prisme syndical à lui. Mais enfin, donc vous pouvez pas imaginer que le front antiraciste soit absent de ses pensées. Bon, je pense que c'est dans ce genre d'attention mutuelle que peuvent se préparer les rencontres au moment où on aura besoin qu'elles s'opèrent.
Eh bien, donc nous allons inviter nos spectateurs à regarder et à lire donc Figure du communisme de Frédéric Lordon aux éditions La Fabrique qui vient de sortir. Et nous nous retrouverons pour une autre émission très bientôt. Au revoir.